Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la polygamie. Deuxième partie. Dans notre dernier message, nous avons examiné des passages bibliques qui montrent que la polygamie est une forme d'adultère. Elle est donc condamnée par Dieu. Aujourd'hui, nous voulons considérer quelques objections qui sont parfois offertes par ceux qui s'opposent à cet enseignement. Nous verrons aussi ce que la parole de Dieu recommande aux polygames de faire en ce qui concerne sa situation. Certaines objections peuvent venir à l'esprit quand il est dit que la polygamie est un péché. Examinons-les pour voir si elles pourraient annuler les principes que nous venons de présenter. Un principe très louable est de vouloir parler là où la Bible parle et de se taire là où la Bible se tait. En d'autres termes, nous devons enseigner ce que la Bible enseigne et non pas les idées humaines. En voyant que l'on ne trouve ni le terme polygame, ni l'exemple d'un polygame dans le Nouveau Testament, certains chrétiens ont cru que la Bible se tait sur le sujet, et que nous ne pouvons donc rien affirmer sur la polygamie, certainement pas pour la condamner. Mais est-ce que la Bible est silencieuse au sujet de ce que Dieu accepte dans le mariage? Loin de là. Elle montre clairement que c'est le mariage monogame que Dieu approuve, et elle définit avec suffisamment de précision ce qui constitue l'adultère. Le mariage à plusieurs femmes ne correspond pas à ce que Dieu ordonne, les deux deviendront une seule chair, mais plutôt à ce qu'il condamne. Qui en épouse une autre commet un adultère. Certaines personnes soutiennent la polygamie en se référant à des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui étaient polygames, Abraham, Jacob, David, etc. Si Dieu leur a permis d'avoir plusieurs femmes et ne les a pas condamnées, se disent-ils, pourquoi dirait-on maintenant que c'est un péché? C'est une question tout à fait naturelle. Les pharisiens ont posé une telle question quand Jésus, par son enseignement, leur disait de ne pas divorcer leurs femmes. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Matthieu 19, versets 6 à 9. Dieu avait permis certains éloignements de sa volonté sur le plan du mariage, mais Jésus déclarait que cela ne serait plus le cas. Et comme la voix de Dieu avait dit au sujet, ni de Moïse, ni d'Élie, mais de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17, verset 5, c'est Jésus que nous devons écouter. C'est sous le Nouveau Testament que nous vivons. Hébreux 8, versets 6 à 13. Il ne faut pas non plus supposer que Dieu approuvait dans le passé ce qu'il désapprouve maintenant. Jésus a dit que Dieu a permis le divorce sous la loi de Moïse, mais même pendant que cette loi était en vigueur, Dieu déclara « Je hais la répudiation ». Malachie 2, verset 16. Ce qui était permis auparavant, Jésus interdit maintenant. De même, sur le plan de la nourriture, des aliments qui étaient interdits sont permis pour le chrétien. Colossiens 2, versets 16 et 17. Un autre argument offert en faveur de la tolérance de la polygamie est basé sur la culture. On peut remarquer que dans une culture donnée, on ne considère pas comme un acte d'infidélité quand un homme marié épouse d'autres femmes, tout en gardant la première. Si en Afrique on ne pense pas que la polygamie soit un adultère, les chrétiens ne devraient pas imposer aux Africains la conception européenne ou américaine du mariage. Mais dans chaque société, qu'elle soit africaine, occidentale ou asiatique, on trouve des valeurs communes et des pratiques répandues qui sont condamnées par Dieu. C'est pourquoi le chrétien, où qu'il se trouve, est appelé à sortir du monde et faire partie d'un peuple séparé. 2 Corinthiens 6, verset 17. Afin d'être le peuple de Dieu, il faut accepter une moralité plus élevée que celle de nos voisins qui sont du monde. En Afrique, il y a, en plus de la polygamie, beaucoup de pratiques et de valeurs relatives au mariage qui sont contraires aux enseignements du Christ et de ses apôtres. Le seul fléau du sida montre clairement que les principes de l'abstinence des rapports sexuels avant le mariage et la fidélité dans le mariage ne sont souvent pas respectés. L'Église doit tenir courageusement au commandement de Dieu, dans le mariage comme dans tout autre domaine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Ce n'est pas la société occidentale qui nous pousse à croire que la Bible enseigne la monogamie, c'est l'influence de la Bible qui a amené la société occidentale à croire que le mariage doit être monogame. L'Afrique doit bénéficier de la même bonne influence. La polygamie, en tant qu'adultère, est bien un péché que Dieu jugera, qui exclut l'homme du royaume de Dieu, et qui doit être pardonné pour que l'homme accède au ciel. Le polygame peut-il recevoir le pardon de Dieu et être sauvé? Bien sûr, mais on ne peut pas parler de pardon sans parler de la repentance. En envoyant ses disciples prêcher l'Évangile au monde entier, Jésus a bien parlé de la nécessité de croire et d'être baptisé pour être sauvé. Marc 16, versets 15 et 16. Mais il a aussi parlé de la repentance. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » À commencer par Jérusalem. Luc 24, versets 46 et 47. Nous voyons donc l'accent mis sur la repentance dans la prédication des apôtres. Pierre prêcha, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Acte 3, verset 19. Paul prêcha, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, versets 30 et 31. Quand on se repent de ses péchés, on s'en détourne, on cesse de les pratiquer. La repentance est la ferme résolution que l'on prend de changer sa pensée et son comportement. Étant triste devant l'iniquité de ses actes, on se repent. 2 Corinthiens 7, verset 10. Cette repentance produit par la suite des fruits qui en sont dignes. Un comportement nouveau. Matthieu 3, verset 8. Celui qui vole, arrête de voler, et si possible, restitue ce qu'il a pris. Luc 19, verset 7 à 9. Celui qui adore les fétiches, s'en débarrasse. Celui qui s'enivre, y renonce. Et celui qui commet l'adultère, cesse d'avoir des rapports avec d'autres femmes que sa femme légitime, sa première. En Marc 6, versets 17 et 18, nous lisons que le roi Hérode fit arrêter Jean-Baptiste à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Pour se soumettre à la prédication de Jean, il n'aurait pas suffi pour Hérode de simplement renoncer à épouser d'autres femmes de ses frères dans l'avenir. Jean s'attendait à ce qu'Hérode se sépare d'Hérodias. Il n'a pas dit « il ne t'était pas permis de la prendre », mais « il ne t'est pas permis de la voir ». Est-ce que Dieu exigerait réellement à un homme de répudier des femmes qu'il a épousées et avec qui il a fait des enfants? Si l'homme n'avait pas le droit de les épouser au départ, oui. C'est ce qui a été exigé au temps d'Esdras. En Esdras chapitre 9, il est dit que des hommes parmi les Juifs revenus en Israël après la captivité babylonienne avaient péché en prenant pour femme des filles parmi les peuples païens qui les entouraient. Esdras 10, verset 44 ajoute que plusieurs en avaient eu des enfants. Or, la loi de Moïse avait formellement interdit de tels mariages. Le chapitre 10 montre ce que les hommes décidèrent de faire quand ils virent leur faute. Ils dirent: Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Évidemment, nous reconnaissons que, comme il a déjà été dit, nous ne vivons plus sous la loi de Moïse. Ce cas n'est pas cité pour que l'on applique cette loi contre le mariage avec d'autres ethnies, mais le récit nous montre que la repentance d'un mariage interdit par Dieu exige la séparation. Il est important de noter ceci. Bien que la séparation soit exigée pour tous, chaque cas était traité individuellement. Il n'est pas question de mettre dans la rue une femme qu'on a épousée sans aucun moyen de vivre. L'homme peut très bien avoir la responsabilité de s'occuper matériellement de la femme, mais il ne peut plus avoir des rapports sexuels avec elle ou être considéré comme son mari. Les enfants qu'il a faits avec elle sont toujours ses enfants et il a toujours le devoir de s'en occuper. La repentance est rarement facile. En fait, c'est l'étape la plus difficile du plan du salut, c'est-à-dire du côté humain de ce plan. Les sacrifices, les souffrances et la mort de Christ, tous du côté divin du plan, étaient certainement plus difficiles. Jésus n'a jamais caché aux hommes qu'il demandait d'eux un engagement total. Luc 14, versets 25 à 27 dit: De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. En devenant chrétien, on meurt au péché. On meurt avec Christ et on est enseveli avec lui dans le baptême. Et on ressuscite pour marcher en nouveauté de vie. Romains 6, versets 1 à 5. Ainsi, celui qui est baptisé ne doit pas demeurer dans le péché, sinon il nie le sens de son baptême. Quel sens y aurait-il à se faire baptiser et retourner consciemment le même jour dans le lit d'adultère? Ce serait comme le proverbe cité en 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue. Si vous êtes tombé dans le piège que représente la polygamie, reconnaissez que vous n'êtes pas en conformité avec la volonté de votre Créateur. Laissez-vous guider par la parole de Dieu et une repentance sincère pour vous dégager de cette situation pécheresse. Dieu vous aidera à trouver une bonne solution.
Amen.